Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
L'affaire célèbre que Jacques-Antoine évoque aujourd'hui devrait intéresser particulièrement les parents de garçons qui vont entrer ou qui sont entrés dans l'adolescence. Attention, loin de nous l'idée de leur présenter leurs enfants comme des monstres en puissance, de jeunes animaux susceptibles de devenir dangereux d'une minute à l'autre. Mais simplement, nous voulons montrer combien l'équilibre psychologique des adolescents est fragile. Voici donc l'affaire Reduro. L'affaire se déroule à Landreau, commune de la Loire inférieure, le 30 septembre 1913, à la ferme de Jean-Marie Mabi, un viticulteur de 39 ans. Il est 10 heures du soir. C'est la fin des vendanges. Dans le cellier, distant de l'habitation principale d'une trentaine de mètres, travaille depuis une heure et demie Jean-Marie Mabi, le patron, et un jeune domestique de 15 ans, Marcel Reduro. Un journal de l'époque, Le Temps, écrira à propos de Marcel Reduro, qui va être le triste héros de cette affaire fantastique. Ce gamin est presque un enfant dont le développement physique ne serait pas complet. Assis derrière une table, on ne le verrait pas, et debout, il est haut comme une botte. Or, nous avons sous les yeux la fiche anthropométrique de Marcel Reduro, et l'affirmation de ce journal nous paraît totalement dénuée de fondement. Puisqu'il mesure 1m58, ce qui, en 1913, dépasse la moyenne des garçons de 16 ans, et il n'a encore que 15 ans et 4 mois. Le même journal écrira aussi « La tête est grosse, avec des cheveux blonds dont les mèches tombent sur un front bas et bombé, le profil avec un nez droit sur une bouche largement fendue et fuyant. » À notre avis, pas un de ces détails ne répond à la réalité. Le front n'est ni bas ni particulièrement bombé, et encore moins fuyant. Au contraire, la tête et la face nous paraissent d'une conformation très régulière, et si l'expression du visage est un peu inquiétante de face, cela tient tout simplement au fait que Marcel Reduro, aveuglé par la lumière nécessaire à la prise de la photo, a froncé les sourcils. N'oublions pas que nous sommes en 1913, et on ne lésinait pas sur la lumière pour faire des photos d'intérieur. Enfin, nous ne voyons pas où le journal Le Temps a vu des oreilles énormes. Elles ont, d'après l'affiche anthropométrique, une hauteur de 6,8 cm. Elles sont absolument symétriques, bien proportionnées, bien ourlées et ne se détachent pas du crâne. Bref, et c'est important de le signaler, ce garçon est physiquement tout à fait anodin. Et c'est finalement le journal Le Phare de la Loire qui se rapproche le plus de la vérité quand il en fera le portrait suivant. Blond, très blond même, avec des yeux bleus. Il est plutôt gentil garçon. Il est loin d'avoir la face de brute qu'on s'accorde d'ordinaire à attribuer aux assassins. Et pourtant, chers amis, ce jeune blondinet de 15 ans, aux yeux bleus, qui à 10 heures du soir travaille dans le cellier avec son patron, le cultivateur Jean-Marie Mabi, va dans quelques instants tuer 7 personnes. Pas une de plus, mais pas une de moins. Devant l'énormité du crime que ce garçon va commettre, nous nous devons de vous donner encore quelques précisions. D'autant que ce sont ces précisions, justement, qui rendent cette affaire réellement extraordinaire. Et vous devez les écouter pour mieux comprendre et bien juger. Il n'y a eu chez les parents de Marcel Reduro, ni chez leurs ancêtres, ni chez les collatéraux des deux branches, aucune affection épileptique, vésanique ou convulsive, pas d'originaux, pas d'individus bizarres ou d'alcooliques. Le père et la mère sont bien portants, de constitution robuste. Ils n'ont subi aucune maladie grave ayant intéressé leur constitution physique ou leur fonction cérébrale. Ils ont eu 11 enfants, dont 10 sont vivants, 6 garçons, 4 filles. L'aîné, une fille à 21 ans, et la plus jeune, 20 mois. Le troisième, un garçon, est mort 4 jours après sa naissance. L'inculpé est le cinquième dans l'ordre des naissances. Les grossesses et les accouchements de la mère ont été normaux. Aucun des enfants n'a eu de maladie grave, soit générale, soit intéressant le système nerveux ou les fonctions cérébrales. Ils sont tous robustes et n'ont jamais donné d'inquiétude relativement à leur santé. À part quelques petites indispositions de l'enfance, Marcel Reduraux n'a connu d'autre maladie qu'une crise rhumatismale l'année dernière, à la même époque, alors qu'il était en service chez son oncle. Il fut pris de fièvre, de douleurs dans les articulations, principalement les genoux, qui pourtant n'enflèrent point. Il ne fut que 8 jours malade et se remit au travail 15 jours après le début de la maladie. Les parents reconnaîtront qu'il est un peu nerveux, vif, espiègle, mais sans méchanceté. Il est peureux dans le sens général du mot. Le soir, il redoute l'obscurité. Il ne sait pas s'il serait capable d'aller la nuit faire une commission loin de son domicile. Si on lui en donnait l'ordre, il ne voudrait pas y aller. La nuit crée en lui une impression vague, indéfinie, qui n'a rien de systématique. Bref, ce n'est pas une phobie. Il ne croit pas aux revenants. Il n'aurait pas peur de passer près d'un cimetière. Il ne craint pas les sorciers. N'en connaît pas dans son pays. En un mot, il est peureux, purement et simplement, d'une façon peut-être excessive pour un garçon de son âge, mais si c'est là un indice de nervosité, ce n'est pas un signe de dérèglement pathologique. L'instituteur, bien placé pour apprécier le caractère d'un enfant qu'il a pu suivre pendant 5 ou 6 années, estime que Marcel Reduraux est d'une intelligence un peu au-dessus de la moyenne, bon élève, rarement puni. Pendant qu'il fréquentait l'école, il n'a donné lieu à aucune plainte. Il avait assez bon caractère, une bonne conduite, et n'a donné lieu à aucune remarque défavorable au point de vue de la probité et de la moralité. Il a quitté l'école après avoir reçu son certificat d'études primaires. En dehors de l'instituteur, personne n'a jamais eu à se plaindre de lui sous aucun rapport, pas plus ses patrons que ses camarades ou les gens du pays. Il n'a jamais manifesté de mauvais instincts, il n'est pas batailleur, ne s'est jamais montré cruel envers les animaux. D'une façon générale, tout le monde partage l'avis de l'instituteur avec cependant une nuance légère, son oncle, qu'il a eu chez lui de 11 à 14 ans, n'a jamais eu à s'en plaindre, mais le juge peu causant et avec un caractère sournois. Un voisin qu'il a très bien connu estime qu'il a une bonne conduite, que c'est un bon travailleur, mais qu'il a le caractère très renfermé et que souvent, quand on lui adresse la parole, il ne répond pas. Un autre fermier qu'il a eu à son service l'estimait très intelligent, mais lui trouve un caractère sournois, très indépendant. Donc, beaucoup de gens, parmi ceux qui le connaissent, tout en ayant une opinion très favorable sur ses tendances et sa moralité, l'estime sournois et rancunier, ce que, encore une fois, ni l'instituteur ni ses propres parents n'ont jamais remarqué. Et pourtant, ce gentil blondinet de 15 ans va dans quelques minutes commettre un crime inimaginable. Ses fréquentations, ou tout ce qu'il y a de plus normal. Lorsqu'il a du temps de libre, il rejoint des enfants de son âge, joue avec eux à des jeux de leur âge. Le dimanche, il joue aux cartes, mais les gains ou les pertes ne dépassent pas 10 sous. Il ne va pas au cabaret. Il ne s'est jamais enivré. Il n'a encore jamais fréquenté les filles. N'a jamais eu de rapport sexuel. Il est camarade avec Marie Dugas, une jeune domestique de 16 ans qui travaille comme lui à la ferme, mais il n'éprouve pour elle aucun sentiment particulier et ne l'a jamais courtisée. Ses lectures? Oh, mon Dieu! Rien qui retienne l'attention, elle se borne à un journal régional et à l'almanach. Il faut dire que nous sommes en 1913 et les périodiques sont infiniment moins nombreux et probablement plus inoffensifs qu'aujourd'hui. Il n'a jamais lu de ces romans populaires dont la matière favorite se compose déjà en 1913 d'histoires de crimes et d'assassinats. Alors comment? Comment ce jeune blondinet de 15 ans va-t-il être amené à commettre un crime pareil? Ah, bien entendu, nous avons recherché, comme tout le monde le fit à l'époque, dans quelles conditions physiques se trouvait Marcel Reduraux ce 30 septembre à 10 heures. N'était-il pas surmené, fatigué, en état de moindre résistance organique et nerveuse? Après tout, le travail des vendanges est assez rude, et il commençait à la ferme à 5 heures du matin pour ne finir qu'à 10 heures du soir, sans autre repos que les moments consacrés au repas. Mais il résulte des enquêtes que les vendanges ont été faites en plusieurs périodes séparées par des intervalles de repos de 3 jours. Aujourd'hui, elles ont duré toute la journée, mais avant-hier, c'était dimanche. Il y a eu repos et hier, les vendanges n'ont duré qu'une partie de la journée. De l'avis unanime, ces vendanges n'ont pas été particulièrement fatigantes. Et ce travail, bien que pénible pour un adolescent de 15 ans, ne s'est pas déroulé dans des conditions qui puissent produire un surmenage physique ou un véritable épuisement nerveux. Soit. Mais alors comment expliquer ce qui va se produire, là, dans ce cellier, dans quelques secondes? Ah, et la vapeur du vin dans les pressoirs. Est-ce qu'elle n'exercerait pas une action troublante? Aucun médecin n'a observé d'excitation cérébrale pouvant être attribuée au dégagement des vapeurs du vin. Au contraire, ce sont beaucoup plus des gaz stupéfiants que des vapeurs excitantes qui se dégagent du mou en fermentation. Ce sont surtout des gaz carboniques qui produiraient plutôt une asphyxie qu'une ivresse furieuse. De plus, en ce qui concerne le jeune homme depuis le début des vendanges, il passe la plus grande partie de ses journées au grand air, dans les vignes, et son travail au pressoir ne l'occupe que quelques heures par jour. D'ailleurs, maintenant qu'il va commettre son crime, il n'est dans le cellier que depuis à peine une heure et demie, et il ne se sent ni troublé, ni excité, ni ivre. Pourtant, vous pensez sans doute comme nous, mais il lui faut bien une raison. Au fait, une dernière remarque. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de son patron, de la famille de celui-ci et des autres personnes de la ferme? Eh bien, il semble qu'il n'ait jamais eu à se plaindre d'eux et qu'il ne nourrit ni rancune ni haine. Mais alors, ce n'est pas possible, il a bu. Tout le monde sait que pendant les vendanges, on boit beaucoup. N'a-t-il pas fait quelques excès inusités? Non. Non, paraît-il, non. Il n'a pris du vin qu'aux heures réglementaires des repas et en quantité normale. Deux verres de vin rouge à chaque fois, et si l'on considère l'énorme travail qu'il a fourni après chaque repas, c'est un fait que la dose peut paraître relativement faible. En tout cas, c'est ce que pensent tous les gens qui ont travaillé avec lui ce jour-là. Et tout de même, avant le souper, il a bu avec son patron, qui est actuellement au pied de la cuve, prêt à faire tourner la barre du pressoir. Deux coups de vin blanc bouchés. La bouteille est encore là, sur un banc, à laquelle il ne manque qu'un tiers du contenu. Mais encore une fois, si on y réfléchit, tout ceci est absolument normal. Compte tenu du rude travail qu'ils doivent accomplir, ce sont des paysans et nous sommes en 1913. D'ailleurs, Marcel Reduraux se sent parfaitement normal. Alors, un seul détail qui nous frappe dans le compte-rendu de l'affaire, chers amis. Depuis les vendanges, le patron, Jean-Marie Mabie, parle fort et quelquefois son langage devient particulièrement rude et il lui arrive de lancer au gosse des remarques plus ou moins injurieuses. Au moment où Marcel Reduraux est monté sur la plateforme du pressoir pour réparer la vis, le patron va le rudoyer à nouveau. Comme Marcel ne parvient pas à exécuter assez vite le travail qu'il lui a demandé, le patron d'en bas lui crie qu'il est un maladroit, un feignant, et que depuis 8 jours, il travaille comme un cochon. Alors, l'incroyable se produit. Marcel Reduraux, d'un bond, descend du pressoir, atterrit derrière son patron, s'armant d'un pilon qui est à sa portée, une pièce de bois qui ressemble très exactement aux massues dont sont munies les statues des héros antiques. Il frappe plusieurs coups sur la tête de l'homme qui lâche la barre et tombe sur le sol. Une extraordinaire tuerie vient de commencer. Jean-Marie Mabie, malgré ses 39 ans et sa robuste constitution, n'a pas esquissé un seul geste de défense. Ayant reçu par derrière, sur le crâne, les coups de pilon que lui porte Marcel Reduraux, il lâche la barre du pressoir, tombe à genoux sur le sol, bascule en arrière, les bras étendus en croix. Marcel Reduraux, le blondinet de 15 ans aux yeux bleus, regarde un instant l'homme à ses pieds. Le cuir chevelu de sa victime a éclaté et saigne abondamment. Toutefois, il n'y a pas eu fracture du crâne. Et l'homme gémit. Alors Marcel Reduraux saisit l'arme. L'arme qui va être l'un des éléments déterminants, j'ose dire, le criminel essentiel dans cette affaire. Il s'agit d'un outil, étrange. Je ne sais pas s'il est encore utilisé de nos jours. Rien de ce qui va suivre ne serait peut-être arrivé si Marcel Reduraux n'avait eu sous la main, à ce moment-là, une arme aussi effroyable. C'est un couteau à pressoir. Au couteau à vendangeou, ce que les viticulteurs de la région appellent à l'époque un couteau à raisin. Cet outil, proprement terrifiant, est à la fois une serpe, une hache, une francisque et une faux. Imaginez fixer le long d'un manche en bois, une lame très longue, très large et surtout très aiguisée. Elle a une longueur de 65 cm, une largeur de 13. Elle pèse 2,5 kg. La lame déborde l'extrémité du manche sur près de 20 cm et là se recourbe comme une serpe. C'est vraiment un formidable instrument de mort même dans une main débile. Donc Marcel Redureau, voyant son patron gémir à ses pieds, saisit le couteau à raisin et lui en porte un coup à la gorge. Il tranche d'un seul geste le larynx, l'œsophage, les artères et les veines. Tout est sectionné. L'arme entame même la quatrième vertèbre cervicale et la tête ne tient plus au tronc que par la peau du cou. Oui, je vous prie, chers amis, d'excuser cette description, mais elle est nécessaire puisque c'est la base même de l'affaire Redureau. Ce premier crime accompli, Marcel Redureau, qui prétendra ne plus savoir très bien ce qu'il fait, ce que nous sommes d'ailleurs tout à fait décidés à croire, saisit une lanterne et sort du cellier pour commencer une randonnée tragique. Il parcourt 30 mètres dans la nuit pour gagner la maison d'habitation, où il s'attend à trouver tout le monde endormi. Mais en arrivant à la cuisine, qui est une pièce très vaste, il voit Madame Mabie, 30 ans, enceinte de plus de 8 mois, et la jeune domestique assise autour d'une grande table ronde, se livrer à des travaux de couture éclairés par une bougie. Une seconde, Marcel Redureau a l'intention de fuir. Mais la patronne, qui l'a entendu ouvrir la porte, lui demande où est son mari. Alors Marcel Redureau perd la tête. La patronne va aller dans le cellier et trouver le cadavre de son mari. Alors il ne répond rien. Incapable d'articuler un son, il retourne au cellier et en revient avec le terrifiant couteau à raisin. Lorsqu'il entre dans la cuisine, les femmes n'ont pas le temps de se défendre. Elles ne peuvent que crier lorsqu'il les frappe et elles tombent, sans le moindre désordre à l'endroit même où elles ont été frappées. Alors je vous épargnerai les détails horribles, mais je me dois d'en signaler à un seul. L'infirmière est étendue sur le dos, la tête près du foyer, les bras le long du corps, les jambes un peu écartées, les jupons sont abaissés. Et pourtant Marcel Redureau les a levés un instant, le temps de frapper la malheureuse qui est enceinte presque à terme d'un seul coup de son arme entre les deux jambes. Il sera incapable d'expliquer cette stupéfiante blessure. Au pied de l'infirmière est étendu le corps de la jeune servante, Marie Dugas. Elle n'est blessée qu'à la tête et au cou, mais les blessures sont tellement nombreuses et horribles qu'on ne peut les décrire. Aucun désordre dans ses vêtements. La bougie s'est renversée, éteinte sur la table. Les deux cadavres ont encore au doigt leur dé à coudre. Ils sont au milieu d'une mare de sang qui s'étend à un mètre autour. Dans la cuisine, dans un petit lit, se trouve un petit garçon, le petit Pierre. Il dort. Il ne s'est pas réveillé. Marcel Redureau n'y touche pas. Mais des chambres voisines s'élèvent des cris. Alors, toujours sa lanterne à la main, Redureau traverse le couloir et entre dans la pièce où est couchée la grand-mère, la veuve Mabie, qui a 79 ans. La vieille, un chapelet à la main, s'apprête à se lever. Il la frappe à la gorge, elle ne dit rien, elle n'a pas le temps. Marcel Redureau passe ensuite dans l'autre chambre, où les deux fillettes, Marie, 8 ans, Henriette, 7 ans, qui sont couchées l'une sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche, dans le même lit, face à face, poussent des cris d'effroi. Il leur porte des coups de l'horrible couteau à raisin, toujours dirigé sur le cou. Ne nous étendons pas sur les blessures, bien que du fait de l'étrange conformation de l'arme qui les provoque, elles présentent plusieurs étonnantes caractéristiques. Comme Joseph, le petit enfant de 2 ans qui dort dans la même chambre, se réveille, Marcel Redureau le tue également. C'est à ce moment seulement, hélas, que le manche du couteau à raisin se casse. Sans son manche, il devient un outil totalement inoffensif. Mais il est trop tard. Quand Marcel Redureau sort de la maison pour aller reporter les débris de l'outil dans le cellier près du pressoir, dans un souci d'ordre saugrenu qui prouve bien son état d'égarement, il ne reste dans la ferme qu'un seul être vivant, le petit Pierre qui dort toujours dans la cuisine. Après avoir déposé le couteau et son manche brisé dans le cellier, Marcel Redureau monte à sa chambre, s'assoit sur le lit. Peu à peu, il reprend son sang-froid, comprend la gravité du crime effarant qu'il vient de commettre. En quelques minutes, il vient de tuer 7 personnes. Est-ce du regret, du remords, de la peur, ou les 3 à la fois? Au bout d'une heure, il descend de sa chambre, parcourt 50 mètres, et entre lentement dans l'étang pour se suicider. Mais lorsque l'eau lui arrive à la poitrine, le courage lui manque. Alors il revient à sa chambre, il reste jusqu'au petit matin. Puis il se rendra chez ses parents, où il sera arrêté quelques heures plus tard. Inutile de vous dire, chers amis, que cette affaire fait grand bruit. Le crime paraît tellement inexplicable que le juge de paix du canton, d'accord avec l'opinion publique, réclame un examen psychiatrique. Devant les spécialistes, l'attitude de Marcel Reduro est celle d'un enfant intimidé. Ils ont de la peine à lui faire lever les yeux. Il parle d'abord à voix basse, et presque uniquement par monosyllabes. Mais en insistant, ils obtiennent des réponses plus explicites et ils répondent pertinemment à toutes les questions qu'on lui pose. Il est bien orienté dans le temps et l'espace, fait preuve dans ses paroles d'intelligence et de bonnes connaissances primaires relativement à l'histoire, la géographie, la grammaire, le calcul. Toutes les réponses qu'il fait au sujet de sa vie passée, de ses patrons, de son travail, de ses salaires, sont exactes ou plausibles. Pendant ses mois de prévention à l'infirmerie de la maison d'arrêt de Nantes, il participe à la vie commune et se plie à la règle comme les autres détenus. Le gardien-chef de la prison prétend que néanmoins, Marcel Reduro lui paraît dissimulé et sournois. Il se tiendrait sur ses gardes et répondrait tout juste aux questions qu'il lui pose. Mais il dort bien, mange bien, n'a pas l'air effrayé de son affaire. Le gardien-chef ne peut dire si l'accusé regrette son acte, mais il l'a vu pleurer après une visite de son avocat. En réalité, il lui arrive de pleurer beaucoup plus souvent. Devant les psychiatres, quand ils évoquaient les souvenirs des victimes devant sa mère lorsqu'elle vient le visiter à propos d'un de ses frères qui vient de partir en Algérie pour son service militaire, bref, sa sensibilité morale paraît intacte et il exprime au sujet des actes qu'il a commis des regrets qui paraissent sincères. Alors, quelle explication donne-t-il à son crime ? La colère. Oui, mais bien entendu. Tout simplement la colère. Son patron l'a mis dans une telle colère qu'il l'a tué. Ensuite, il a perdu la tête et voulu faire disparaître tous les témoins. La patronne, parce qu'elle allait découvrir son mari dans le cellier. La servante, parce qu'elle était avec la patronne. La grand-mère, parce qu'elle s'est réveillée. Les deux fillettes et le bébé, parce qu'ils criaient. Il n'a pas touché au petit Pierre parce qu'il dormait et qu'il n'a rien dit. Il est incapable d'expliquer la violence et la multiplicité des coups. Il ne peut non plus expliquer pourquoi il a ouvert le ventre de la fermière qui était enceinte. Il se défend d'avoir eu la moindre pensée obscène ou sadique. Cet acte, comme les autres, selon lui, ne relève que de la colère. Dans ces conditions, les psychiatres convenant qu'il n'était pas en état de démence, qu'il a eu pleine conscience des faits accomplis et de leurs conséquences, ne constatant chez lui aucune anomalie mentale ou psychique, le déclare parfaitement responsable et il comparaît devant le tribunal. Pendant les débats, il se tient affaissé sur son banc, la tête basse, la figure pleurarde, dans l'attitude d'un enfant fautif qui s'attend à une correction sévère. Selon la déposition d'un témoin qui déclare que Reduro lui aurait dit qu'il n'aimait pas ses patrons, qu'ils étaient bons à tuer, et que s'il n'y avait que lui, il les tuerait tous, le gosse semble s'éveiller. Outré, furieux, il prononce de formelles dénégations. Il faut dire que cette déclaration du témoin paraît peu vraisemblable, et l'avocat de la défense présente des faits qui tendent à faire considérer ce témoin comme un mythomane. Quand son oncle se présente à la barre, Marcel Reduro pleure. Il pleure aussi pendant le réquisitoire et la plaidoirie. Et bien entendu, il pleure longtemps à chaudes larmes, à la façon d'un enfant, pendant les jours qui suivront sa condamnation. Le maximum de la peine que comporte son âge, 20 ans de prison. Mais bientôt, de ses larmes séchées, on le voit peu à peu revenir à une mobilité de sentiments, à l'insouciance de l'enfant que tout amuse, qu'un rien fait rire, et qui subit tout entier les influences du monde extérieur. Pourtant, voici la lettre qu'il écrit à ses parents le lendemain de son procès. Cette lettre constitue un document psychologique important. Nous la reproduisons telle qu'elle, sans en changer un mot. Inutile de vous dire qu'elle comporte des fautes d'orthographe, et de ponctuation. Chers parents, je vous écris pour vous dire que le grand jour est passé, mais malheureusement sans bon résultat, et comme vous devez l'avoir déjà appris, je suis condamné à 20 longues années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Et comme vous le voyez, chers parents, la mort viendra nous prendre avant de nous revoir. Et c'est pour cela qu'il faut que vous veniez chercher mes effets, car ils seraient perdus. Et quand vous viendrez, venez le samedi et le mardi, parce que les autres jours, c'est défendu de voir les condamnés autrement que le mardi et le samedi. Vous ne manquerez pas de me donner votre adresse quand vous aurez quitté le pays, où nous étions si bien avant ce maudit jour du 30 septembre où j'ai commis cet horrible forfait. Je viens d'apprendre par mon avocat que papa est bien malade d'avoir quitté le pays. J'espère qu'il va bientôt être guéri pour fuir ce pays de malheur qui était si beau avant ce crime d'un si jeune misérable que je suis. Je ne pense pas que je vais rester longtemps à Nantes. Quand je serai dans un autre endroit, je vous donnerai l'adresse afin que je puisse recevoir de vos nouvelles, car cela me serait trop dur de ne pas en recevoir. Vous me rendrez réponse en me disant des nouvelles de mon cher père qui pleure son enfant qui est condamné à ne jamais le revoir. Je pense qu'il sera vite guéri et qu'il prenne courage. Et vous me direz des nouvelles de grand-père qui doit être vieilli. Votre fils qui songe à ce qu'il a commis et qui pleure en pensant à un si horrible crime qui vous a mis dans la douleur et la honte pour le restant de votre vie ainsi que celle de mes bons frères et sœurs qui pleureront toujours un si grand crime fait par leur jeune frère, prisonnier pour toujours. Votre fils qui embrasse en pleurant ses bons parents qui sont à jamais et pour toujours éloignés de lui, Marcel Roduro. Notre conclusion ? Certes, Marcel Roduro était un enfant normalement constitué, tant sur le plan physique que physiologique et psychiatrique. Mais, puisqu'il a accompli un geste totalement anormal, c'est qu'il a eu, au moins pour le temps de son crime, un processus psychique anormal. C'est la susceptibilité de Roduro qui s'est trouvée excessive à un moment donné. Pourquoi ? Parce que, bien que cela ne soit pas apparu au psychiatre, Roduro devait refouler un sentiment sans doute inconscient de brimade, de frustration, d'injustice. À ce moment de l'adolescence, les garçons sont tellement sensibles à ces blessures qu'un rien peut les faire basculer dans une attitude de combativité et d'agressivité exagérée. Or, malgré tout ce qu'on a dit, les vendanges, c'est les vendanges. Certes, il n'a pas bu exagérément, mais il a bu. Certes, il n'était pas exagérément fatigué, mais il était fatigué. Il n'était peut-être pas surexcité, mais il était excité. Ceci s'ajoutant à cela, il était à la limite de son équilibre. Si vous y ajoutez l'évidente exaspération, l'évidente fatigue, l'évidente excitation du patron après 15 jours de vendange, et les gros mots et les injures, on peut commencer à comprendre qu'une injure de plus ait provoqué cette colère monstrueuse. Tout simplement parce que Marcel Roduro vivait à ce moment-là l'instant critique de son adolescence, cet instant qui peut se présenter à tout moment, qui généralement passe inaperçu, parce qu'il se passe bien, et qu'on ne discerne donc que lorsqu'il est déjà trop tard.
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.